de produits. Baseball ID, c'est une boutique 100% baseball avec des cages de frappeurs intérieures ouvertes à tous. Démarrez votre saison avec les meilleurs produits et aussi les meilleurs conseils de nos spécialistes. Baseball ID, 180 Léonidas Sud à Rimouski, l'entrée est à l'arrière. Info 418-723-5055.
Notre résidence n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est une véritable résidence de cœur. Profitez de notre grande salle de séjour pour lire un livre ou discuter entre amis avec une vue imprenable sur le fleuve. Tous nos services sont inclus dans un seul prix compétitif. Plus besoin de vous soucier des frais supplémentaires. Avec une réputation alimentaire impeccable et un personnel qualifié et humain, nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez chez vous. Prévoyez une visite maintenant. Les résidences de l'Immaculée de Rimouski, au cœur du centre-ville, 581-246-3515.
2 avril au 14 mai, dans nos trois restaurants Bon Voyage de la région, les enfants mangent pour seulement 2,50 $ tous les soirs. Oui, t'as bien entendu. Le menu pour enfants est à seulement 2,50 $. En faisant un dessin, votre enfant pourrait vous faire gagner très gros. Un forfait pour 4 personnes à l'Océanique de Rimouski pour la saison 2024-2025 ou un cadeau mystère visible seulement dans un de nos trois restaurants. Vous êtes curieux, là, hein? Les restaurants Bon Voyage, vos restaurants familiaux par excellence.
Un enfant participant à la liste qui commence un repas principal. Le concours est valide tous les jours dès 16h jusqu'au 14 mai inclusivement.
C'est fixe FM 93. Vous allez en entendre parler. Si ça se passe dans la région, si c'est important, si c'est intéressant, vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
Le Québec maintenant.
Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant.
Le Québec maintenant
avec Patrick Lagacé,
votre point de repère.
Le Québec maintenant. 16h02, oui, on va parler de tous ces campements pro-palestiniens là qui trouvent pignon sur rue sur les campus à Montréal. Après celui de McGill, ben c'est l'UQAM qui a maintenant un campus pro-palestinien. Le recteur de l'Université du Québec à Montréal sera avec nous dans quelques instants. Madame Leboeuf, bonjour.
Bonjour, Patrick.
Donc, les services ont repris en début d'après-midi à la Société de l'assurance automobile du Québec après un autre problème informatique ce matin.
Oui, et la SARAC indique que le bris d'un serveur a affecté le système informatique, mais elle souligne que la panne de ce matin, ça n'a rien à voir avec sa transformation numérique. Un plan d'action a été demandé à l'entreprise IBM pour limiter les répercussions en cas de nouveau bris, et la SARAC indique que tous les clients qui avaient un rendez-vous en ont reçu un autre.
Et il y a la crise qui secoue le système de santé en région au Québec qui s'accentue. On va parler médecin de la Côte-Nord dans quelques instants.
Oui, le manque de personnel provoque maintenant des bris de services. Comme tu l'as dit, Côte-Nord, Abitibi, les nouvelles règles imposées par Québec pour les agences privées diminuent l'attractivité pour les employés. Sur la Côte-Nord, seulement, il manque 600 postes. Le docteur Guillaume Lard, président de l'Association des médecins et des praticiens de cette région, constate le résultat.
Fermeture de certaines urgences la nuit, réduction très drastique du nombre de lits d'hospitalisation, fermeture de salles d'opération, fermeture de la pouponnière, puis diminution de la capacité qui va faire en sorte que ça va générer des quantités phénoménales de transferts.
Et la situation qui pourrait s'étendre, Patrick, à d'autres régions du Québec.
Et 2,5 millions de dollars en cocaïne ont été saisis hier soir dans le Vieux-Montréal, ainsi qu'à Saint-Constant sur la Rive-Sud.
Oui, outre l'impressionnante quantité de drogue, deux suspects âgés de 38 et 46 ans qui ont été arrêtés. Ils détenaient 230 000 dollars en argent comptant. Les trafiquants utilisaient un condo du Vieux-Montréal comme cache pour la cocaïne et d'autres stupéfiants destinés au crime organisé à travers le Québec. Les deux suspects doivent comparaître au Palais de justice de Montréal aujourd'hui afin de faire face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants.
Merci Valérie. On va se retrouver dans une heure. Jérémy, Stephen Bronfman, le richissime homme d'affaires montréalais, serait toujours intéressé à ramener les expos à Montréal.
Oui, bien en fait, ce qu'il a indiqué aujourd'hui dans une entrevue dans la Gazette, c'est qu'il croyait toujours au retour des expos. On sait que le projet d'expansion devrait se mettre en branle l'année prochaine. Il dit aussi être prêt à s'impliquer pour aider un groupe à réussir le tour de force, mais il avoue ne plus vouloir être le maître du projet. Selon ses dires, il n'a plus les moyens d'acheter à lui seul une franchise du baseball majeur au prix d'aujourd'hui. Alors,
c'est vrai que c'est rendu très, très cher.
C'est très, très, très,
c'est
très cher.
C'est près de 2 milliards, je pense.
Exactement, exactement. C'est ça que ça va coûter, en plus du stade et toutes les infrastructures.
Philo, merci, t'es libéré.
Oui, merci.
On se retrouve demain en début d'émission. Monsieur Meeker, tu veux nous parler de crédulité à la fin de l'heure?
Oui, il y a plusieurs choses, encore une fois, dans l'actualité qui m'ont inspiré ce sujet-là. J'ai fouillé un petit peu, j'ai encore une fois, pas de réponse scientifique, mais je veux qu'on réfléchisse là-dessus. Et je t'apprends rien si je te dis que c'est inquiétant et qu'un des problèmes, ce sont les réseaux sociaux. On croit bien des affaires qui n'existent pas à cause des réseaux sociaux.
Les maudits réseaux sociaux. Mais tu sais, il y avait ce reportage dans la presse sur le retour de l'ésotérisme.
Ben, c'est une partie de mon inspiration.
Non, mais tu vas en parler tantôt, c'est
ben,
ça?
Un petit peu, mais c'est pas tant l'ésotérisme en tant que tel que croire à des affaires, puis il semblerait que notre cerveau est fait pour croire à des affaires.
Je suis convaincu, moi, que les réseaux sociaux ont donné du carburant, par exemple, à l'astrologie, qui est devenue redevenue très, très populaire. Parfait, Mika. Parlons maintenant de ces campements pro-palestiniens.
Le Québec maintenant!
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
Le Québec maintenant!
16h05 minutes. On le sait, un peu partout en Amérique du Nord, il y a des campements d'étudiants et de militants qui ont été érigés sur des campus. Ça a brassé pas mal aux États-Unis, au Canada, au Québec jusqu'à maintenant. Ça se passe dans un calme relatif. À McGill, il y a toujours ce campement depuis plusieurs jours. Il y a une demande d'injonction qui a été déposée par l'Université McGill. Le juge est toujours en réflexion. Et à l'UQAM, quelques centaines de mètres de McGill, ben, il y a un autre campement qui a été érigé dans les dernières heures au cours du week-end. Stéphane Pallage est le recteur de l'Université du Québec à Montréal. Il est au bout du fil. Monsieur Pallage, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, qu'est-ce que les étudiants qui ont érigé ce campement réclament de l'UQAM?
Ils réclament un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout du ressort de l'UQAM. Par exemple, la fermeture du bureau du Québec à Tel Aviv. Vous comprenez que l'UQAM n'a pas grand-chose à dire sur ce point-là. Ils réclament également le retrait de l'injonction à McGill, ce qui, évidemment, ne relève pas de l'UQAM non plus. Ils réclament ensuite que nous fassions la preuve que nous n'avons pas de placement lié à l'armement ou lié au conflit actuel en Palestine, ce qui est une preuve très très facile à faire parce que nous n'en avons pas et on peut facilement le démontrer. D'ailleurs, notre fondation, la fondation de l'UQAM, s'est dotée il y a déjà plus de 10 ans d'une politique d'investissement responsable. Donc, aucun lien avec des compagnies qui seraient liées à l'armement, par exemple. Ensuite, il réclame qu'on coupe tous nos liens avec des universités israéliennes. Il s'avère qu'en ce moment, nous n'en avons pas. Nous en avons déjà eu et il est possible que nous en ayons dans le futur. Mais actuellement, ces accords internationaux avec Israël sont inexistants chez nous.
Quand vous dites, monsieur le recteur, que l'UQAM n'a pas de lien financier avec Israël, est-ce que l'UQAM a un fonds d'investissement comme d'autres universités ont des fonds d'investissement?
Ben, c'est-à-dire qu'on a une fondation, hein, donc on fait, comme les autres universités, des campagnes majeures pour récolter des dons. Ces dons, on les place jusqu'à ce qu'ils soient utilisés. Et donc oui, nous avons un fonds qui est placé et c'est facile de démontrer que dans ces placements, il n'y en a aucun qui est en lien avec le conflit actuel.
Ce que vous êtes en train de me dire, monsieur le recteur, c'est que les demandes des étudiants, des militants pro-palestiniens sur le campus de l'UQAM, ben, il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour répondre à ces demandes-là.
Exact.
Sur le principe de la collaboration entre des universités ici au Québec et des universités israéliennes, qu'est-ce que vous pensez de cette demande-là? Je comprends là qu'il n'y a pas de lien présentement, mais sur le principe, est-ce que vous trouvez que c'est une idée qui est valide de dire en protestation contre ce qui se passe dans la relation entre Israël et les Palestiniens, ben on va couper les liens académiques entre nos universités et les universités là-bas?
Non, je pense que c'est une très mauvaise idée. Les universités sont des lieux de paix, des lieux de dialogue, des lieux de contestation aussi. Ce n'est pas différent en Israël du Québec. Et moi, je suis convaincu qu'affaiblir les universités, c'est en fait renforcer Netanyahou. Donc, c'est pas quelque chose que les militants manifestants devraient souhaiter.
Est-ce que vous avez eu des discussions avec les représentants là, de ce campement pro-palestinien qui a été érigé sur votre campus?
Alors, ils sont arrivés dimanche après-midi. Ça nous a pris un certain temps avant d'identifier qui pouvait être un interlocuteur dans le groupe. Ça s'est fait en soirée dimanche et depuis lors, notre service à la vie étudiante est en dialogue presque constant avec les manifestants. On leur demande essentiellement deux choses qui ne sont pas négociables pour nous. D'une part, l'accès, le libre accès de notre communauté à l'ensemble des bâtiments. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, il y a encore un certain nombre de portes d'accès à nos bâtiments qui sont entravées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la sécurité. La sécurité des personnes, autant des manifestants que des membres de notre communauté, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, ben nous allons réfléchir à des actions plus fortes.
Quand vous me parlez de portes entravées, est-ce qu'il y a moyen d'accéder à cet immeuble-là par d'autres portes?
Oui. Mais oui, effectivement, c'est possible. Par contre, l'immeuble n'est pas sécuritaire parce que les issues de secours ne sont pas accessibles. Et donc, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas utiliser ce bâtiment.
Quelle a été la réponse des campeurs?
Écoutez, le dialogue n'est pas mauvais parce que à différents moments ils ont réouvert certaines portes. Par contre, ils ont tendance à les refermer, à les rebloquer un peu plus tard, ce qui fait que on repart à la case départ très très souvent.
Donc, ce que vous me dites là, si je lis entre les lignes, c'est que si ça se poursuit, vous allez demander une injonction vous aussi.
Je ne sais pas si ça prendra la forme d'une injonction, mais il faudra agir d'une façon ou d'une autre.
L'arsenal à votre disposition, c'est quoi?
vous avez probablement mis le doigt sur la solution juridique, mais vous savez, en comparaison des autres campements, à McGill, il y a un grand espace libre. Le campement à l'UQAM, il est très 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 collé sur nos bâtiments. Ça entrave quand même beaucoup notre circulation. Il est aussi complètement masqué, donc il y a des palissades de protection de chantier qui ont été érigées tout autour du campement, et c'est voilé, ce qui fait que il y a un sentiment quand même désagréable lorsque vous passez à côté. Ça fait château fort. Donc je pense que la police est évidemment présente sur les lieux et regarde ça avec attention.
Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a certains de ces manifestants qui sont masqués?
Personnellement, j'aime pas les masques. Je pense que dans un contexte où on veut dialoguer, où on voudrait obtenir quelque chose de l'université, le faire à visage découvert me semble normal.
Merci d'avoir été avec nous, Monsieur le Recteur. Je souhaite une bonne journée. On aura l'occasion de s'en reparler.
Ben sûrement. Merci, M. Lagacé.
Salut, à la prochaine. C'était le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage. Je me tourne maintenant vers Annie Guillemette de Cogeco Nouvelle. Annie, t'es allée couvrir une manifestation qui souligne aujourd'hui le jour de création de l'État d'Israël.
C'est le 76e anniversaire. Il y en a eu des plus tranquilles, probablement, un peu partout dans le monde. Ça fait 200 jours que la guerre, même plus que 200 jours que la guerre sévit entre Israël et le Hamas. Et donc, on commence à percevoir, surtout avec les fils de presse internationaux, de la division au sein du peuple israélien. Je me suis posé la question, est-ce que les gens sur le terrain avaient aussi ça? Ce qu'on comprend rapidement, c'est que les gens voulaient fêter aujourd'hui. Ils sont fiers de leur État et ils voulaient fêter, mais en même temps, il y a des sentiments plus que partagés. On va en écouter quelques extraits.
On a perdu beaucoup de soldats, on a encore des otages qui sont pas ici, on a beaucoup de peine.
Nobody likes war.
Et la guerre, ça donne des grosses émotions. Donc je comprends tout le monde.
Chaque année, c'est aussi important pour nous parce qu'on est là pour célébrer. On s'en fout de ce qui se passe autour, on est juste là pour célébrer Israël.
Il y a une contre-manifestation, si je comprends bien.
Bien sûr,
des gens qui sont arrivés avec des drapeaux palestiniens.
Oui, ils étaient une centaine, sauf que du côté israélien, c'était vraiment une vague de drapeaux avec des étoiles de David. Donc, il y avait probablement plusieurs milliers du côté des Israéliens. Pour les pro-palestiniens, peut-être une centaine. Et les policiers avaient vraiment prévu le coup, Patrick. J'avais jamais vu autant de forces de l'ordre présente et surtout visible. Même les gens de l'intervention qui habituellement attendent en retrait étaient là présents et on a confiné les pro-israéliens dans un parc d'un côté de René Lévesque alors que la fête israélienne se déroulait de l'autre côté.
Donc, les policiers sont arrangés pour pas qu'il y ait d'interaction.
Il n'y avait aucun contact possible, sauf visuel. Deux rangées de policiers entre les deux et on n'avait pas